Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Les pages que nous allons feuilleter ensemble relèvent d'un moment de l'histoire de France où le mot « infamie » est malheureusement approprié. Nous sommes entre février et avril 1942 et se déroule en Auvergne à Rion, non loin de Vichy, un procès mémorable. L'infamie, le procès de Rion, tel est le titre du nouvel ouvrage que vient de publier chez Grasset Maître Jean-Denis Bredin de l'Académie française que j'accueille en notre studio. Bonjour maître.
Bonjour madame.
Merci de nous accorder cet entretien.
Non,
c'est toujours
merci à vous,
un
merci
plaisir
à vous.
Pour nous de vous recevoir et je vous reçois avec l'un de vos amis, maître Christian Charrière-Bournazel, qui fut bâtonnier de l'Ordre des avocats et qui a accepté de venir dialoguer avec vous sur ce procès. Bonjour maître.
Bonjour madame, je suis évidemment très intimidé, très reconnaissant de cette invitation en présence de mon grand et illustre confrère Jean-Denis Bredin.
Non, alors celui-ci se permet de protester, c'est lui qui est intimidé de parler en ta présence.
En tout cas, vous êtes tous les deux déjà venus à Canal Academy et nous vous remercions de revenir une fois de plus. Maître Bredin, vous précisez dans votre avant-propos que le procès de Rion, tenu en 1942, a fait l'objet de plusieurs études historiques, que votre livre n'est donc ni le seul ni le premier. Quelles sont les raisons personnelles qui vous ont incité à écrire sur ce sujet ?
J'avais d'abord beaucoup lu sur ce livre, j'avais lu tout à peu près les livres qui avaient paru sur le procès, et ils m'avaient toujours intéressé. J'ai eu des raisons personnelles parce que j'en ai réentendu parler au moment du procès du maréchal Pétain, ce que j'explique je crois dans l'introduction, et il se trouve que le mari de ma mère, second mari de ma mère, que Jacques Isorni, dont je fus un temps le collaborateur, étaient les avocats du maréchal Pétain. Alors, un de mes oncles, qui avait été grand résistant, compagnon de la Libération, et qui voulait à tout prix que l'on m'enseigne des choses importantes, m'avait accompagné à la première chambre de la cour, tu vois l'endroit où avaient été construites les fameuses tribunes, pour le procès du maréchal Pétain, qui n'existait pas autrefois. Et alors, ces tribunes, il m'y a emmené tous les jours pendant 15 jours, parce que ensuite, pour la fin, il n'a pas voulu venir avec moi, j'ai continué de venir seul, mais j'y ai donc assisté au procès du maréchal Pétain, et j'ai entendu parler du procès de Rion, sur lequel je n'ai cessé de lire tout ce que je pouvais lire. J'avais trouvé le maréchal Pétain très étrange, il était arrivé devant une salle debout, les résistants aussi étaient debout quand Pétain entrait dans la salle, tout le monde était debout, il était resté un long moment debout, puis il s'était assis et puis il avait pris la parole pour expliquer qu'il ne dirait rien et qu'il se tairait, tandis que parleraient ses avocats et quelques autres.
Alors, maître Charrière-Bournazel, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé du procès de Rion ? Parce que nous dire qui sont les accusés, je n'ose pas dire les coupables, mais au moins les accusés, juste pour que nos auditeurs sachent bien de quoi nous parlons.
En réalité, après ce que Jean-Denis Bredin nomme à juste titre le coup d'État de 1940, accompli par le maréchal Pétain, le désastre auquel est confrontée la France et son début de politique de collaboration avec le régime nazi, le conduisent pour justifier son attitude et faire le procès en réalité de la démocratie qui l'a précédée, à arrêter un certain nombre des hommes politiques les plus brillants, d'ailleurs tous les hommes politiques les plus brillants d'avant-guerre, et cela commence le 7 septembre 40 par Édouard Daladier, qui est arrêté incarcéré à Chazeron, nous rappelle Jean-Denis, un château délabré situé près de Châtel-Guyon. Et puis après, le rejoignent Léon Blum, l'immense Léon Blum, le général Gamelin, qui avait fait l'objet, avant la guerre, d'un certain nombre de critiques, au moment de la défaite, la gamelle de Gamelin, disait-on, Paul Reynaud, et l'immense Georges Mandel, qui fut un homme politique admirable, et qui est mort dans les conditions que l'on sait, fusillé par les miliciens. Et ce procès, qui en fait semble avoir pour finalité de faire condamner les responsables du désastre de 39-40, Et en réalité, ce que Jean-Denis Bredin dit admirablement, le procès de la démocratie contre la dictature incarnée par le maréchal Pétain, qui ne parle pas de dictature, mais qui prétend instaurer un ordre nouveau, un ordre sain, dans un pays débarrassé des juifs, des communistes, des démocrates, bref, l'horreur que nous connaissons. Et ce procès va être tout à fait extravagant, parce que les malheureux sont emprisonnés, ils sont évidemment d'une très grande tenue, ils ont des avocats remarquables, dont plusieurs seront bâtonniers de Paris. Je les compte parmi mes illustres prédécesseurs, moi qui n'ai pas eu l'occasion de me confronter à des situations aussi remarquables que celles qu'ils ont vécues. Et les juges, car il se trouve toujours des juges dans ces moments-là, vont essayer d'être honnêtes tout en étant aux ordres et en subissant la loi de l'État français, de l'État de Vichy. Et finalement, ce procès tournera court, il n'y aura ni jugement ni condamnation. Ce sera une sorte de dérobade par une sorte de petit escalier de service, d'où l'histoire...
On va y revenir.
S'échappera.
Maître Bredin, ce procès, il est mené par une Cour suprême de justice. Comment et pourquoi a-t-elle été créée? Dans quel contexte? Et que dire de cette Cour?
Elle a été créée par le maréchal Pétain et ses adjoints, pas seulement par le maréchal Pétain, mais par un certain nombre des hommes qui l'entouraient, pour juger la République qui avait perdu la guerre. Il faut dire que, probablement, Hitler avait demandé qu'on juge la France comme responsable de la guerre. Car on avait jugé l'Allemagne, on avait obligé l'Allemagne, en 1918, à se déclarer responsable de la guerre, alors qu'elle ne l'avait pas déclarée, la guerre de 14-18. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça pouvait être un peu formel, Hitler avait attaché tellement d'importance à cette déclaration qui avait été imposée à l'Allemagne, et pourquoi il a voulu que le gouvernement français avoue qu'il était responsable de la guerre et fasse juger ceux qui étaient spécialement responsables de la guerre. Alors, faut-il avouer que le maréchal Pétain avait soigneusement choisi quelques personnes qui pouvaient être jugées? Édouard Daladier, qui était président du Conseil au moment de Munich, au moment des accords de Munich, Léon Blum, qui avait été président du Conseil au moment du Front populaire en 1936 et qui avait été remplacé en 1937. Et puis, on avait décidé d'en juger deux ou trois autres, le général Gamelin, général en chef, comme responsable de la perte de la guerre par l'armée française. Et puis alors...
Paul Reynaud,
qui n'a pas été jugé finalement. Paul Reynaud, qui n'a pas été jugé, qui a été enfermé au fort du Portalet. Et puis, tous ceux qui ne s'étaient pas présentés. Bref, on voulait faire croire que les Français étaient responsables de la guerre et en même temps, il faut bien le dire, condamner le Front populaire, c'est-à-dire condamner le gouvernement qui avait pris toutes les responsabilités que le maréchal Pétain désapprouvait, et pire que désapprouvait.
Alors qu'il avait été ministre peu de temps auparavant.
Alors qu'il avait été ministre en 1934, mais il avait décidé que ça commencerait en 1935, les poursuites, de manière à échapper aux poursuites. Mais pendant tout le procès, d'ailleurs, on n'arrêtera pas de lui dire « Et vous, vous faisiez ceci, vous avez été ministre, vous avez été ambassadeur auprès de Franco, vous, maréchal Pétain, vous avez pris vos responsabilités, vous, maréchal Pétain, vous avez estimé qu'il n'était pas possible de prolonger la ligne Maginot parce qu'après, il y avait des forêts merveilleuses qui empêcheraient les Allemands d'y passer, impénétrables, et ils y sont bien entendu passés sans problème. » Alors, le maréchal Pétain a fait ce qu'on lui demandait ou ce qu'il croyait être bien ou ce qu'il, disons la vérité, il n'a pas réfléchi et probablement n'avait-il plus tout à fait l'habileté, non seulement l'habileté, mais l'intelligence qui lui permettait de beaucoup réfléchir. Enfin, ça, nous y reviendrons peut-être. Il était très vieux déjà, très très vieux.
Alors, ce que vous démontrez remarquablement, c'est que Pétain avait, au temps où il était ministre de la Défense, une vision totalement archaïque de ce que serait une armée moderne. Et vous le démontrez à travers tout ce que vous rapportez des témoignages des uns et des autres. Sa résistance à l'aviation, comme si c'était une sorte de plaisanterie ou de
l'aviation,
ou de jouer.
C'était un jouet pour les enfants.
Voilà.
C'était pas autre chose.
Et c'est important de se rappeler d'ailleurs ce que vous disiez sur l'âge de Pétain. Moi, j'ai découvert ça, j'ai l'air d'un imbécile en le disant, mais je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il était né en 1856. C'est-à-dire qu'à l'époque, Verlaine avait 12 ans, Rimbaud avait 2 ans.
Oui, vous avez raison.
C'est l'année où Victor Hugo publie le Contemplation. Et il a, puisqu'il est né en 56, il a 34 ans de plus que le général de Gaulle.
Oui. Et alors, il est vrai aussi qu'il a joué un rôle utile pendant la guerre de 14-18, ce à quoi le général de Gaulle a rendu hommage dans son livre sur la guerre de 14-18, mais qu'il avait gardé une opinion profondément défaitiste, démoralisante, que beaucoup d'hommes politiques avaient reconnu dès son époque. Le général de Gaulle est celui qui, dans ses mémoires, l'a le plus préservé, Pétain. Mais en revanche, beaucoup d'autres ont été très sévères, Poincaré, Clémenceau, avec un Pétain qui était un défaitiste à l'état pur, pessimiste, défaitiste, tout était toujours perdu, mais qui avait cru que la France gagnerait la guerre puisqu'elle avait gagné la guerre de 14-18. Donc c'était par suite d'un embranchement nécessaire des réalités qu'elle gagnerait la suivante.
Mais ce que vous dites sur Poincaré, justement, montre qu'on pouvait être très âgé à l'époque. Poincaré était mort en 32, mais qu'on pouvait être du même âge que Pétain et avoir une détermination beaucoup plus grande. Poincaré n'avait que 4 ans de moins que Pétain, puis il était né en 60.
Oui.
Et ce sont deux hommes
Maître
complètement
Charrière,
différents.
Maître Charrière, Bournazel a étudié les dates. On voit
oui,
ça
mais
très
il a raison,
précisément.
Il a
tout à fait raison.
Pour
très
moi,
important.
Les comparaisons
elles sont très importantes.
Pour ne pas faire d'anachronisme et voir un peu qui est qui dans un monde donné.
Elles sont très importantes et il est vrai que le maréchal Pétain, qui eut la chance, car à l'époque il avait pensé que c'était une chance, d'être ministre de la guerre dans le gouvernement d'Oumergue en 1934, car il fut ministre de la guerre, s'était opposé à toute augmentation des crédits d'armement, parce que la France dépensait déjà beaucoup trop d'argent pour son armement, et l'aviation, ça ne comptait pas, le tank, ça ne servait pas à grand-chose, il fallait recommencer la guerre de 14-18 si jamais on la recommençait. Et probablement, alors là c'est une question que je ne cesse pas de me poser, est-ce qu'il se disait qu'il reviendrait un jour au pouvoir en 34, est-ce qu'il se dit ça, ou est-ce que c'est simplement son pessimisme profond, total, qui l'encourage?
Revenons au procès de Rion, le réquisitoire commence le 16 octobre 41, il fait 184 pages, précisez-vous, et il accuse les ministres en question, que vous avez cité tout à l'heure, Maître Charrière-Bournazel, d'avoir trahi les devoirs de leur charge. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une accusation un peu imprécise, un peu floue?
Non seulement elle est complètement imprécise, mais c'est une accusation en trompe-l'œil. Car de l'autre côté, que disait au même moment, en 1940, un écrivain comme Georges Bernanos du maréchal Pétain? Il a cette phrase que je me permets de vous rappeler. À la voix du vieux maréchal, comme sous l'effet d'une purge amollissante, les consciences bien pensantes, jusqu'ici comprimées par la double terreur de la révolution et de la guerre, se relâchèrent toutes ensemble comme des ventres. Et je trouve cette formule très remarquable, parce que c'est en fait une sorte de riposte du lâche à l'égard de ceux qui n'ont pas eu les moyens et qui se sont trouvés, notamment à cause du lâche, privé de toute possibilité pour riposter à cette montée horrible du fanatisme nazi.
Alors, Maître Brodin, vous avez expliqué, c'est la page 48 de votre livre, ce qu'est cette Cour suprême de justice créée par le maréchal Pétain, et vous expliquez plus tard, un peu plus loin, qu'il fait l'usage d'un acte constitutionnel numéro 7. De quoi s'agit-il?
Le maréchal Pétain avait été autorisé par le Parlement tout entier à Vichy promulguer une nouvelle constitution. Alors, il a promulgué une série d'actes successifs qu'il appelait une constitution. C'était la constitution qu'il promulguait. Il avait même pris le soin de désigner Pierre Laval comme son successeur éventuel. Il a promulgué un certain nombre d'actes, dont la Cour de justice politique, qui avait été présidé par le président Caousse, qui était président de la Cour de cassation et qui fut chargé de la présider. Ça n'a pas été une tâche très commode. car Caus essaiera de concilier un peu de justice avec beaucoup d'autorité et de férocité. Il fallait aller jusqu'au bout, mais Caus ralentissait, ne voulait pas, voulait qu'on respecte quelques règles fondamentales. Et c'était un certain nombre de magistrats qui, quels que soient leurs défauts, furent des magistrats courageux qui accomplirent la tâche que leur avait confiée épouvantablement le maréchal Pétain.
Alors, c'était le discours qui a fait l'effet d'une bombe, le discours du maréchal Pétain, 16 octobre 1941. Donc, il crée ce conseil de justice politique. Maître Charrière-Bournazel, cette intrusion du pouvoir politique dans
nous
le pouvoir judiciaire.
Vous avez raison, nous sommes en pleine confusion des pouvoirs. Puisqu'on le voit très bien à travers le livre de Jean-Denis Bredin, à de multiples reprises, c'est Pétain lui-même qui est en première ligne pour dire qu'il faut ne pas traiter de telles questions, garder secret telle partie des débats, maintenir le huis clos sur ce qui est de l'ordre. On appellerait cela aujourd'hui le secret défense. En réalité, c'est le secret de ses propres hontes. Ce que disait Jean-Denis tout à l'heure de ses magistrats, c'est très difficile d'être juge dans des périodes troublées. Faut-il l'être ou ne pas l'être? C'est la grande question. Tout le monde se rappelle le remarquable juge Didier qui a refusé de prêter serment. Et j'aurais pensé qu'il eût été souhaitable que quelques syndicats de magistrats ou d'avocats demandent qu'on bâtisse certaines places de palais de justice en place du juge Didier, pour rendre hommage à cette indépendance et à cet esprit frondeur. Mais bien des magistrats aussi ont été du côté de la résistance, ont été martyrisés pour s'être battus au nom de la liberté et de la démocratie. Et puis il y a ceux qui ont accepté de juger quand même. Et ils font, que vous le vouliez ou non, la sale besogne. Même s'ils ne la font pas totalement salement, comme le disait Jean-Denis, ils y ont quand même consenti. Et c'est une des grandes interrogations que l'on peut se poser, et qui se trouve à la fin de ton livre d'ailleurs. J'ai bien aimé quand tu indiques, en manière de conclusion, que Vichy avait exprimé à sa manière la haine, la soif de vengeance, l'indifférence à la démocratie, quand elle semble dérangeante, et tu ajoutes « vieille maladie française », qui risqueront toujours de poursuivre leur chemin. Et dans cette note un peu pessimiste, j'espère qu'il n'y a en fait qu'une manière de faire s'éloigner le mauvais sort.
Oui, mais il faut se souvenir aussi que lorsque le général de Gaulle va venir au pouvoir, il ne pourra pas empêcher, quel que soit le rôle qu'il ait joué lui-même, mais souvent pour empêcher, il n'a pas empêché que des institutions équivalentes, la Haute Cour de justice, des cours de justice...
Laval a été honteux aussi, Laval était une fripouille.
À tel point que quand Laval sera jugé, ça je le dis à un moment court, Blum écrira au général de Gaulle en lui disant que on ne peut pas tuer Laval après l'avoir jugé dans des conditions aussi affreuses. Par conséquent, il est vrai que le mépris de la justice est, dans des périodes difficiles de l'histoire française, un peu une constante.
Vous l'écrivez d'ailleurs dans la page 59 de votre livre, « Rarement le droit et la justice n'avaient été traités avec tant de mépris ».
Oui. Et il est vrai que le maréchal Pétain, peut-être par sa formation militaire, peut-être par ses tendances personnelles, n'attachait pas de l'importance ni au droit ni à la justice. Autour de lui, certaines personnes étaient des extrémistes de droite très violents et qui voulaient à tout prix condamner tout le monde. Certains, comme Barthélemy, essaieront de retenir un peu, de maintenir un tout petit peu de droit, d'essayer d'empêcher que tout se passe trop mal. Mais le maréchal Pétain était un militaire, le droit à la justice, c'était pour des pays des moments tranquilles de l'histoire.
Il a même parculé dans les sections spéciales.
Absolument.
Qui ont condamné à mort des gens qui avaient déjà été condamnés à la prison pour leurs actes de résistance.
Donc le rendu du jugement, c'est le 28 octobre 1941. Blum, Daladier, Gamelin, Guy Lachambre et Robert Jacomet seront jugés. Paul Reynaud et Mandel resteront incarcérés. On va faire une toute petite pause et on va maintenant aborder quelques-uns des interrogatoires de ce procès.
Environnement, développement durable, énergie verte, Canal Academy vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademy.com.
La première audience du procès se tient le 19 février 1942. Maître Bredin, comment se déroule-t-elle? Qui est entendu? Je crois que c'est le général Gamelin.
Elle se déroule comme une audience normale au palais de justice, avec tous les avocats debout, tous leurs clients derrière eux. Et le premier interrogatoire, ou le premier ou le second, je ne sais plus, mais enfin je crois que c'est le premier, était celui du général Gamelin.
C'est le premier, oui, oui.
Manière de rendre hommage au général qui avait commandé l'armée française, qui avait été commandant en chef, et le général Gamelin explique immédiatement les raisons pour lesquelles il ne répondra à aucune question.
Il choisit de se taire.
Il en explique les raisons. Il ne pourra pas parler sans mettre en cause un certain nombre de gens, parler de ses subordonnés, parler d'autres généraux, parler de différentes personnes, et que pour lui, il n'y avait de respectable dans les circonstances que le silence. Et il se taira tout au long du procès, sauf une ou deux fois où il interviendra pour dire deux mots.
Oui, dans votre livre, c'est d'ailleurs assez bien détaillé. Puis c'est Léon Blum, l'ancien président du Conseil. Quelle défense, lui, adopte-t-il?
Alors, Léon Blum adopte l'attitude, Daladier l'adoptera aussi d'ailleurs, mais adopte l'attitude la plus agressive. Il refuse l'idée d'être jugé, il le dit, mais il répondra à toutes les questions qu'on lui pose. Et il répond immédiatement à l'accusation principale qui lui est portée, c'est d'avoir soutenu le Front populaire, c'est d'avoir soutenu le Parti communiste. Il dira qu'il n'avait jamais rien cédé au Parti communiste. Et Léon Blum répondra à toutes les questions les plus embarrassantes sur la semaine de 40 heures, sur les grèves, sur les manifestations, sur tout ce qui, lui dira-t-on, avait empêché la France de préparer sa défense. Et Blum répond avec, me semble-t-il, beaucoup de talent, car il en avait, quels que furent ses défauts possibles, même si un jour, je me souviendrai qu'en 1936, je m'étais retrouvé à l'hôtel Matignon, et il prenait tous ses enfants dans les bras, il m'a pris un temps très court, 5 minutes dans les bras, en me disant « tu seras certainement président du Conseil », ça m'avait étonné, ça m'avait beaucoup plu, mais en même temps, j'ai vu qu'il le faisait à tous les garçons qui après montaient dans ses bras. Il y avait une floraison de futurs présidents du Conseil autour de lui à l'hôtel Matignon. Mais il était très brillant. Il avait été très brillant.
De plume aussi, son livre est tout à fait à lire.
Alors, il s'est défendu avec une grande ardeur. Il n'a rien accepté de tous les reproches qu'on lui faisait. Et il a toujours courtois vis-à-vis des magistrats, très courtois même vis-à-vis des magistrats, mais très ferme. Courtois mais ferme, c'est-à-dire se défendant très bien.
La deuxième audience a lieu le 20 février 1942. Alors là, on évoque particulièrement l'impréparation de la guerre. Ça a été quelque chose de très sensible, cette accusation-là.
Oui, ça a été très sensible parce que on a constaté que la France n'avait pas préparé la guerre, qu'elle ne s'y était pas préparée, serait-ce en troupes, que ce soit en avions, que ce soit en matériel de la guerre, que ce soit en tanks, que ce soit en fortifications. Et c'est tout ce procès sur l'impréparation de la guerre qui fut fait à Léon Blum comme étant en fait, une suite du Front populaire. Et Léon Blum me répondra tout le temps pour dire que c'était bien avant qu'a commencé l'impréparation de la guerre et que notamment il suffisait de regarder les réponses du maréchal Pétain quand il était ministre de la guerre de Doumergue et qu'il refusait toujours les crédits, qu'il refusait toujours l'argent, qu'il refusait toujours les tanks, qu'il refusait toujours les avions et qu'il disait « il n'y a aucune raison de préparer la guerre, la ligne Maginot est là, c'est pas la peine de se faire de soucis ».
Dans votre livre, vous examinez bien sûr tous les interrogatoires et on ne va pas pouvoir les détailler ici parce qu'on va inviter nos auditeurs à se procurer votre ouvrage « L'infamie, le procès de Rion » paru chez Grasset. J'aimerais quand même que vous disiez un mot des consignes que la presse a reçues de censure en vérité, de ne pas mentionner certains éléments du procès.
Alors, la presse était censurée, ça c'était une des politiques du maréchal Pétain, du gouvernement du maréchal Pétain à l'époque. La presse était censurée Et les consignes de censure étaient telles qu'on ne pouvait pas parler du maréchal Pétain, pratiquement, sauf si jamais quelqu'un lui rendait un quelconque hommage au passage, mais c'était peu probable, et que l'on ne pouvait pas parler de tout ce qui pouvait gêner le gouvernement de Vichy. Que ce soit d'abord les Allemands, il n'est pas question d'en parler. Alors dès qu'on parlait des Allemands, on disait non. Censure, censure, censure sur le maréchal, censure sur le gouvernement de Vichy, censure sur l'impréparation de 1934, censure sur les années 34 et 35, censure sur tout ce qui pouvait gêner. L'ennui, c'est que ça, c'était pour la zone libre. Le procès se déroulait en zone libre et que en zone occupée, la censure ne s'exerçait pas, c'est-à-dire que les quelques personnes qui pouvaient prendre le procès en zone occupée ou dans les pays étrangers qui entouraient la France, par exemple en Hollande ou en Belgique ou en Angleterre, eh bien la censure ne fonctionnait pas. Alors la censure ne retenait que, j'allais dire, les Français de la zone libre qui étaient priés de ne rien savoir, mais les autres savaient. Les autres savaient et la censure.
Et ils ont fini
et puis,
par
il y
se
avait
lasser.
Les Allemands présents à l'audience.
Et voilà, et en plus.
Et qui rapportaient ensuite à Hitler. Et lorsque, grâce.
Tu as tout à fait raison.
Grâce au talent des accusés et à leur défense extrêmement déterminée et précise, les Allemands ont compris que celui qui était le plus en cause dans cette impréparation, c'était le ministre de la guerre de 34, c'est-à-dire Pétain lui-même. Hitler, c'est ce que tu racontes, a piqué une colère et a préféré qu'on arrête ce procès plutôt que de le laisser mener jusqu'à son terme, alors qu'il aurait confondu son allié du moment qui était l'État de Vichy.
Oui. Alors, il y a peut-être quelque chose auquel il faut attacher de l'importance, parce que c'est la pire illégalité qu'on puisse imaginer. C'est la décision qui fut rendue soudain par un conseil de justice politique. Conseil de justice politique constitué par le maréchal Pétain sans que nul n'en ait parlé autour de lui, présidé par un Espagnol, vice-présidé par plusieurs juristes, car il y avait des juristes dans le conseil de justice politique, et qui les a tous condamnés sans les avoir entendus, par précaution, sans les avoir entendus, sans qu'ils puissent se défendre du moindre reproche, condamnés à des peines variables. Et c'est un procès inouï, alors, celui-là. C'est un petit procès minuscule, sans accusé, sans défenseur, dans lequel il n'y a que l'accusation qui juge, tout de suite. Procès de justice politique qui est une infamie, alors vraiment du droit, même pas du droit, une infamie française. Et que beaucoup d'hommes politiques ont dû regretter à l'époque, d'ailleurs.
Maître Charnière-Bournazel, on a voulu abattre la République, on a voulu discréditer la démocratie, mais ça a été un échec. Est-ce qu'on ne peut pas penser, au fond, que ça a été voulu que ce soit un échec? C'est la question que je me suis posée à la fin du livre de M. Brodin.
Je me la suis posée moi-même, vous avez tout à fait
Est-ce
raison.
Est-ce que ce n'était pas une manœuvre habile?
Elle ne vient certainement pas, cette manœuvre du maréchal. Mais c'est là qu'on peut, d'une certaine manière, rendre un hommage aux juges, c'est qu'ils ont laissé parler. Et ils ont laissé parler contre le maréchal, même si de temps en temps ils feignent d'interrompre ou de trouver que c'est un peu trop. Mais ils ont laissé parler, sachant que les Allemands étaient là et écoutaient. Et j'ai finalement conçu, grâce à Jean-Denis Brodin, une forme de considération pour ces magistrats qui ne se sont pas totalement déshonorés. L'honneur ainsi n'eût peut-être été de ne pas accepter de siéger, d'autres l'auraient fait, peut-être plus mal. Et ceux-là, en tout cas, ont laissé se diluer cette espèce de fausse justice dans une sorte de contre-preuve de ce qu'en réalité Pétain voulait prouver. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est la revanche du courage, même opprimé, sur la lâcheté institutionnelle. Et puis, c'est aussi quelque chose d'encourageant. Ce vieux pays qui est le nôtre, qui passe son temps osciller entre le bonapartisme et l'anarchie parlementaire à cette époque-là, et puis qui connaît ces périodes troublées, qui était dans un état pitoyable, parce qu'il ne faut pas oublier que 21 ans avant 39, il y avait eu 1 500 000 jeunes hommes morts en 14-18, n'est-ce pas, dans les tranchées, et que cette saignée épouvantable, dont on a le souvenir partout dans nos campagnes, sur nos monuments aux morts, a probablement aussi contribué à la désorganisation du pays. Et ce qui reste pour moi comme leçon, d'abord, c'est celle, je vais avoir un flatteur Jean-Denis, mais je l'assume complètement quand c'est de toi qu'il s'agit, c'est le remarquable travail de ce petit livre. On pourrait appliquer à Jean-Denis Brodin la formule que je ne sais plus qui appliquer à Siménon, il n'y a pas de gras, on va tout de suite à l'os. Et ensuite, la grande leçon, c'est celle d'une espérance, le vieux fonds de démocratie, le courage de grands accusés et l'assistance déterminée de grands avocats nous permettent de continuer à considérer que ça vaut la peine d'aimer ce pays.
Ah oui, et par surcroît, le courage des avocats, alors ils ont été remarquables, souvent même très provocateurs, violents. Certains comme Ribet spécialement, comme Créteil, comme d'autres. Et d'autre part, ce que tu dis est tout à fait vrai. Tout à fait vrai, les juges ont joué un rôle important quand même en laissant passer tout ce qu'ils n'auraient pas dû laisser passer. Le maréchal Pétain a dû être considéré que c'était insupportable. Ce pourquoi, d'ailleurs, il prend finalement une décision, un décret que personne ne connaît et qui arrête le procès.
Parce il n'y a pas eu de fin, finalement.
Il n'a pas eu de fin, il n'a jamais eu de fin. Et ce qu'on sait simplement, c'est que Hitler était furieux parce que le procès tournait à tout ce qu'il n'avait pas demandé. Il avait voulu que les Français soient jugés responsables de la guerre et il disait qu'ils auraient gagné la guerre s'ils l'avaient bien faite. Par conséquent, Hitler était furieux et a ordonné qu'on interrompe ce procès. On l'a interrompu, mais c'est un très mauvais souvenir français.
Merci, maître, de votre présence à tous les deux. Donc,
merci à toi d'être
merci
venu.
Merci à vous. Le seul avocat qu'on peut appeler maître, sans être ridicule, puisqu'il est l'avocat académicien.
Non, il se moque.
Alors, l'infamie, le procès de Rion, février-avril 1942, c'est donc le livre de Jean-Denis Bredin de l'Académie française, paru chez Grasset. Nous avons d'autres émissions avec Maître Bredin sur Canal Académie, que je vous encourage à écouter. Et puis, je voudrais aussi citer que vous avez écrit un livre sur l'affaire Massilia, un autre procès alors important. C'était chez Fayard en 2002. Et avec Maître Charrière-Bournazel, nous avons des émissions sur le procès Barbie à cause du témoignage de l'académicien André Frossard. Et aussi, nous avons trois portraits de trois maîtres du barreau, deux académiciens, Georges Isard et Jean-Marc Varro, et Maître Jacques Izorni, dont vous parliez, Maître Bredin, dont vous avez été le collaborateur.
C'était un grand avocat, très grand avocat, simplement qui a été suspendu pour avoir porté atteinte à l'honneur des magistrats, suspendu, et qui est mort 3 ans, mais il est mort à peu près ruiné et inconnu. Enfin, voilà.
Nous lui avons rendu hommage sur Canal Académie, n'est-ce pas ?
C'est la fin.
Merci à vous deux et à une prochaine fois. À une prochaine fois, à un prochain livre, j'espère, Maître Bredin. Merci.